Alors, on va prendre dans la deuxième épître aux Corinthiens, on ira au chapitre 5, du verset 14 à 18. 2 Corinthiens 5, 14 à 18. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre vie ancienne est passée, c'est marqué. Donc, le Seigneur veut que ce soit une réalité. Alors, nous avons une vie nouvelle, personnelle, avec le Seigneur Jésus, dont le but est de ne plus vivre, il nous a été dit, là, pour nous-mêmes, mais pour lui. Et ceci, c'est notre vie de relation personnelle avec lui, dans notre vie de prière, dans la lecture de sa parole, et puis là où le Seigneur nous emmène par le Saint-Esprit. Mais en tant que chrétien, Dieu va donner une autre dimension à notre vie que nous ne pouvions pas connaître auparavant et que nous découvrons par notre nouvelle naissance, c'est notre participation au corps de Christ qui se révèle à nous. C'était une chose totalement inconnue avant qu'on se convertisse. Et là, le Seigneur va nous en parler dans Romains 12. On va prendre Romains 12, versets 3 à 5. Romains 12, donc. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est cela que le Seigneur nous fait découvrir. Cette vie qui représente son corps et dont nous sommes les membres. Bien sûr que nous connaissons ces choses depuis fort longtemps, évidemment. Alors on va voir que dans la Bible, et on le sait, l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens et au chapitre 12, décrit parfaitement le corps de Christ et de ses membres, donc de nous. Donc on va continuer dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12. On lira à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On voit quelle précision le Saint-Esprit a donnée à Paul pour qu'il décrive le corps de Christ. C'est la réalité majeure, on veut dire, pour notre vie de chrétien. On a parlé de notre vie personnelle, bien sûr, mais de cette vie. Et tout est décrit de façon très, très précise. Et en Éphésiens 4,16, il nous est dit que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, à Dieu, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si on parcourt la parole de Dieu, on a cité les principaux passages, mais on comprend, on voit, c'est très clair que la pensée de Dieu pour notre vie de chrétien, c'est le corps de Christ. Notre vie personnelle, elle doit être, on va dire, notre relation avec Christ, elle est indispensable, mais elle ne doit pas être prioritaire. C'est la vie du corps de Christ, on en parle souvent entre nous, qui doit donner cela. Et à ce moment-là, lorsque nous, les chrétiens, nous comprenons, nous découvrons cette réalité du corps de Christ et qu'elle est indispensable pour chacun de nous, alors notre vision de notre vie chrétienne doit changer complètement. C'est-à-dire que ça doit donner pour chacun de nous de demander au Seigneur qu'il nous emmène dans la réalisation, pour chacun, pour notre part, puisqu'on a vu que chaque membre a une part très précise, à donner une vraie participation au corps de Christ. Et en relisant tous ces passages, je me suis aperçu que dans bien des années, et même après, ça n'a pas été mon cas. Chacun peut voir, moi je parle de moi parce que c'est la réalité. Je vivais ma vie chrétienne en ordre avec le Seigneur, des fois moins, des fois plus. Mais le corps de Christ n'était pas une réalité. Or, c'est la réalité majeure de la vie de l'Église, absolument majeure. Et quand elle est bien réalisée, cette vie du corps de Christ, alors il y a une joie, il y a des choses extraordinaires qui viennent de Dieu lui-même et qui donnent des fruits. On va le voir, ça, dans Actes 2. On connaît bien sûr tellement bien ces passages, mais la Bible, on peut l'étudier toute notre vie, elle nous sera toujours révélée différemment, bien sûr. Dans Actes 2, lorsque Pierre a parlé à ceux qui étaient là après son discours, ils étaient très contrits et qui disaient « Que devons-nous faire ?» puisqu'ils avaient le cœur vivement touché. Alors, Pierre leur dit de se repentir, d'être baptisés, car la promesse était pour eux et leurs enfants. Alors, on prendra à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. D'abord, ils acceptent ceux qui acceptent la parole, c'est-à-dire ce que Pierre va dire de la part de Dieu. Les autres partent, les autres ne restent pas. Mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est une description merveilleuse de la nouvelle Église, l'Église qui arrive, acceptant la parole, voyant que, eh bien, ils sont amenés à vivre ce corps de Christ, on en voit la bénédiction. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils mangent souvent ensemble, ils sont larges dans leur don et assidus ensemble dans le temple. Et là, la conclusion de ça, de cet état, de cette obéissance à cette réalité du corps de Christ et non plus de la vie personnelle, eh bien c'est le verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le résultat de l'acceptation de cette réalité, c'est que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et si on comprend, ben ça c'est le but de Dieu pour chacun de nous aussi. Dans chacune de notre vie et dans notre Église, en quelque sorte, mais c'est sûr. C'est ne pas chercher pour moi, et j'ai été repris quand je préparais ce texte, ne pas chercher à profiter de ma propre vie, bien sûr que Dieu veut nous donner des bénédictions, mais de lui préférer la réalité de ma présence, de mon action dans le corps de Christ et dans l'Église. Et on voit que cette vie qu'il menait, c'est qu'il persévérait. Il y a une persévérance dans ce corps de Christ. Ça veut dire que tous les jours, pour eux, c'est une volonté de continuer. Ils persévéraient, et on voit dans quoi ils persévéraient, on l'a souvent lu, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Souvent, on a parlé de ces choses. L'enseignement des apôtres, ben, c'est notre réunion d'études bibliques. La communion fraternelle, c'est bien sûr dans ces réunions, c'est pendant notre culte. La fraction du pain, c'est quand nous prenons la Sainte Cène. Et dans les prières, c'est notre réunion de prière. Et ils persévéraient, donc ils étaient tous là, à ce moment-là. Et cette persévérance et leur présence, c'est que Dieu veut nous dire à nous aussi, qui sommes si peu ce soir, et souvent si peu le vendredi soir, de persévérer dans le corps de Christ. Le Seigneur veut vraiment, je pense, nous parler dans ces choses. Pour qu'il veut nous emmener dans cette réalité du corps de Christ, mais qui est une bénédiction extraordinaire quand on relit ces versets 41 au verset 47. Ce sont des hommes et des femmes qui sont heureux, qui sont joyeux d'être ensemble, qui partagent tout, qui mangent ensemble. Et si on réfléchit, si nous ne nous engageons pas dans cette participation active au corps de Christ, Dieu ne peut pas bénir une assemblée. Et il ne peut pas envoyer de nouvelles âmes. Il en enverra quelques-unes. Mais on voit ici qu'il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient... C'était chaque jour. C'était chaque jour, et le jour où Pierre leur a donné la parole, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. C'est extraordinaire. Et si bien que le diable va tout faire pour nous éloigner de ce chemin de participer pleinement au corps de Christ. Dans tout ce que nous sommes eus, ces participations dans les réunions, bien sûr, et puis dans les choses où l'Église devra intervenir. Et pour cela, il va nous pousser dans les convoitises de notre vie personnelle et puis de notre présence aux réunions. Je parle pour moi, parce que je sais que ça a été longtemps mon cas. Et là, dans ce cas-là, le Seigneur ne peut pas donner son entière bénédiction. Elle n'est pas dans la vie personnelle en dehors du corps de Christ. Et c'est encourageant de voir cela. Parce que là, on voit où se trouve aussi la bénédiction pour chacun de nous. Et c'est ce qui se passait du temps de l'apôtre Paul, puisque après toutes ces choses, l'apôtre Paul, il a vécu, quand il était prisonnier, cette phase où il a dit dans Philippiens 2, versets 20 et 21, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Et ça, ce sont des manœuvres très subtiles du diable qui, pour des motifs tout à fait valables, va nous emmener dans d'autres choses que dans la priorité de lui demander que dans notre Église, nous qui sommes ici, on puisse s'engager pour participer au corps de Christ de façon pratique. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun, bien sûr, le travail qu'il veut qu'il fasse. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pourquoi il y a eu ces miracles qui sont produits lorsque tous ces gens ont accepté cela. Et on a lu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a une qualité du cœur pour chacun qui sont là. Il était dit que les membres étaient également soins les uns des autres. Combien de fois je n'ai pas soin des uns des autres? Je dis bonjour, comment vas-tu? Et des fois, j'attends pas la réponse. Je ne peux pas le savoir à ce moment-là. Et oui, je vous demande pardon, parce que c'est quand même ça. Je n'ai pas soin les uns des autres. Ça veut dire que tous ensemble, on doit avoir soin des uns des autres. Tous les membres de la famille doivent avoir soin des membres de l'autre famille. Ça veut dire qu'on doit pouvoir rencontrer les autres, on doit pouvoir se demander, se renseigner. Si un membre souffre, il nous est dit aussi, dans ce chapitre 12, tous les membres souffrent avec lui. Ah, dites donc, ça fait beaucoup de souffrance, mais c'est indispensable. Si un membre souffre, les autres doivent pouvoir être dans la compassion de Jésus-Christ, à lui en parler, que le Saint-Esprit doit lui montrer, et pouvoir souffrir avec lui. Alors j'ai un peu réfléchi. Eh bien, j'ai d'abord le savoir que mon frère ou ma sœur souffre. Donc, il faut que j'aille le voir pour en parler avec lui. Il faut lui demander qu'il puisse m'en parler. Et puis, on puisse partager sa souffrance. Et partager sa souffrance, c'est pas seulement le plaindre, mais comprendre, c'est communier, c'est prier ensemble, ou même savoir pleurer avec ceux qui pleurent. C'est la Bible qui nous le dit, ça. Et combien de fois nous avons eu l'occasion de pouvoir manifester cette vie du corps de Christ. Et c'est le Seigneur qui le premier l'a montré. Dans Jean 11, 33 à 36, lorsque Lazare était mort, Jésus, voyant Marie pleurer, frémit en son esprit et fut tout ému. Et Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Il nous est dit aussi, dans le verset 23 de chapitre 12, entourez ceux qui sont les plus faibles. Quelle fonction aussi nous devons avoir. Mais pour ça, il faut que j'ai la volonté de dire, Seigneur, emmène-moi vers mes frères et sœurs qui ont telle ou telle difficulté. Et le Seigneur nous emmène. Et notre sœur ou notre frère qui est en face, il sent qu'il peut ouvrir son cœur et que nous pouvons recevoir tout ce qu'il va nous dire. Verset 23, entourez ceux qui sont les plus faibles. Ben là encore, il faut que le Seigneur nous montre lesquels sont les plus faibles. Ce n'est pas forcément dans une attitude, mais dans une réalité qu'ils pourront nous partager parce que nous serons prêts à écouter et à vouloir les aider. Et enfin, cette dernière chose dans ce verset 12, que les membres aient également soin les uns des autres. C'est complet, hein, et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, 17 à 47. Alors, nous pouvons demander régulièrement au Seigneur de nous envoyer vers nos frères et sœurs, dans notre Église d'abord, bien sûr. Il y aura une bénédiction. Et ça doit être pratique, je pense, quand nous sommes ensemble, évidemment. Mais aussi de pouvoir visiter régulièrement, que le Seigneur nous montre cette régularité, les uns, les autres qui sont malades, qui sont faibles, qui ne peuvent pas se joindre à nous. Et qui ne peuvent pas se déplacer également. Nous avons tous des voitures. Nous avons tous le téléphone. Alors, le Seigneur nous demande de pouvoir profiter de nos voitures, puisqu'il y a la clim, c'est bien, c'est quand même mieux par ces temps-ci, de pouvoir, de toutes les façons, être en contact avec nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont âgés, qui sont malades, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les consoler. C'est ça, notre ministère dans le corps de Christ. Et encore une fois, je voudrais dire que c'est en préparant ces choses que j'ai eu honte en demandant pardon au Seigneur de ne pas l'avoir fait. Si souvent de ne pas l'avoir fait. Et j'ai été repris. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager, pour qu'ensemble, nous puissions comprendre la volonté de Dieu dans notre Église, en tant que membre du corps de Christ. Et ainsi, eh bien, à ce moment-là, il y aura des bénédictions. Et le Seigneur enverra les bénédictions. Peut-être que c'est le moment, en prenant conscience de ces choses et en nous y attachant, où le Seigneur pourra commencer à donner des bénédictions, c'est-à-dire envoyer des âmes. On se pose souvent la question entre nous, il n'y a pas d'âmes qui viennent. Mais s'il n'y en a pas, alors qu'il y en avait dans le livre des Actes, c'est qu'il veut nous montrer le pourquoi. Je ne suis pas à la place de Dieu. Mais en tout cas, une des choses qui peut nous encourager et découvrir peut-être, c'est entrer dans le corps de Christ pour pouvoir recevoir ses enseignements, les mettre en pratique vis-à-vis de nos frères et sœurs, comme ils nous sont montrés ceci. Voilà, c'était ces pensées que je voulais partager avec vous, parce que le Seigneur me l'a montré. Ben voilà.